Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie de notre étude sur le service consacré à Dieu. Aujourd'hui, le titre de notre partage sera l'obéissance et la crainte de Dieu. On a vu les fois précédentes comment ça se passe quand le Seigneur décide qu'il est temps de marcher à ses côtés, de marcher avec lui. On a pris plusieurs exemples pour comprendre le cheminement emprunté en fait quand quelqu'un s'engage avec le Seigneur. Et c'est important de rappeler que Dieu est toujours souverain et qu'il agit avec chacun de ses enfants en fait comme il le veut et surtout en son temps. Voilà, donc le cheminement doit globalement être le même pour chacun, mais le procédé employé reste propre en principe à celui qui conduit toute chose, hein, c'est-à-dire à l'Esprit de Dieu. Et si on se demande parfois s'il y a un message vient bien du Seigneur, il y a une chose certaine, c'est sur laquelle nous pouvons nous appuyer, c'est que le Seigneur ne se contredira jamais, en fait, hein. Un message n'ira jamais à l'encontre de ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, quand on se demande, en fait, si un message, si quelque chose, une parole vient bien du Seigneur, eh bien, le mieux, c'est d'aller vérifier d'abord dans les Écritures, hein, avant d'attribuer quelque chose au Saint-Esprit. C'est important. Et puis, c'est important aussi d'avoir un peu de discernement sur ce qu'on ressent au moment où on reçoit cette parole. La parole que le Seigneur nous donnera sera toujours accompagnée de paix, d'une paix à toute épreuve. Voilà. Donc, ça commence à être un peu angoissant, un peu incertain. On commence à se poser un peu trop de questions. Bon, voilà, on prie d'abord et puis on essaye d'aller voir si on peut trouver des réponses dans la Bible, dans la parole du Seigneur. Voilà, donc un message qui vient du Seigneur, en général, c'est clair et puis c'est sans ambiguïté. Voilà. C'est une certitude qui est déposée dans notre cœur. Dans tous les cas, si Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui, il faudra bien être obéissant, parce que il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que certains ont désobéi et ça leur a pas forcément porté chance. Hein? On connaît tous, hein, l'histoire de Jonas, qui avait ce message d'aller annoncer la parole du salut et de repentance aux Ninivites, hein, aux gens de la ville de Ninive. Et Jonas, il a pas voulu obéir parce que il considérait que ces gens-là n'étaient pas pardonnables. Mais en vrai, c'était pas à lui, ni à lui, ni à qui que ce soit d'autre, hormis le Seigneur, de décider si les gens étaient pardonnables ou pas. Donc, il faut faire attention parce qu'on risque de perdre du temps et de passer par des moments fort difficiles avant de finir par faire de toute façon ce pourquoi on est appelé. Et d'arriver là où le Seigneur nous attend. Parce qu'au final, quand le Seigneur a besoin de nous, il sait nous convaincre et il arrive quand même toujours à faire en sorte qu'on fasse sa volonté. Mais c'est vrai que des fois, on va perdre du temps et on va s'égarer alors qu'on va s'apporter des difficultés, alors qu'en fait, le Seigneur il trace tout devant nous. Donc, on doit marcher avec confiance et justement crainte de notre Seigneur et Père. Alors, pourquoi je fais une petite piqûre de rappel comme ça? Tout simplement parce que C'est absolument nécessaire de comprendre l'importance, en fait, de marcher dans la crainte de Dieu. Et dans l'obéissance aussi, hein, pour accomplir le service qui nous attend. Parce qu'à l'image d'un enfant qui ne craindra pas la parole de ses parents, ni leur autorité, bah, les enfants de Dieu, en fait, qui ne craignent pas l'autorité de leur Père céleste, n'avanceront pas bien et pas longtemps dans les voies du Seigneur. Hébreux 11 au verset 6 nous dit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La crainte de Dieu, elle est étroitement liée à la foi, en fait, qu'on va placer en lui. Preuve nous en est donnée dans le verset juste après, en fait, hein, toujours dans le chapitre 11 aux Hébreux, verset 7. La Bible nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ben là, en fait, on voit bien que si Noé n'avait pas justement respectueusement craint le Seigneur, il n'aurait pas obéi, en fait. Et il n'aurait pas permis non plus de rentrer dans la justice de Dieu, de devenir héritier de la justice de Dieu et de sauver sa famille aussi. Il n'aurait pas permis à sa famille d'être sauvée et il n'aurait pas été sauvé lui-même. Et on nous dit bien à la fin que tout ça s'obtient par la foi. On voit là que sans la foi, en fait, et sans la crainte respectueuse du Seigneur, on n'a pas envie d'obéir et on n'entrera pas dans le service que le Seigneur a pour nous. Voilà, pourquoi le craindre lui, en fait, parce que c'est lui qui peut mettre un point final à toute chose qu'il a créée, en fait, hein, ou que les hommes ont créé. Mais tout ce qui existe, hein, que ce soit lui qui l'ait créé ou pas, de toute façon, d'une parole, d'un claquement de doigts, s'il veut, il met un terme. Il est tout puissant, en fait, hein. La parole du Seigneur nous dit que Jésus dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà. Alors, quoi qu'on en pense. Eh ben, c'est indéniable, il est souverain et quoi qu'on décide de faire, il restera souverain de toute façon. Voilà. La Bible nous parle aussi des chefs d'État, hein, qui devraient craindre Dieu parce que c'est lui-même qui les a élevés là où ils sont. Alors, psaume 2 au verset 10 et 12 nous dit « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà. Mieux vaut être du côté du Seigneur, en fait. Voilà. Donc, un enfant qui ne craint pas l'autorité de ses parents, bah, devient un enfant roi, hein, comme c'est le terme à la mode, et impose sa propre volonté envers ses parents, en fait, qui n'ont pas d'autre choix que de se soumettre, en fait, hein. Donc, dans le royaume des cieux, bah, c'est pas la règle. C'est pas les enfants de Dieu qui doivent imposer leur choix à leur père, mais tout enfant de Dieu qui ne se soumet pas à l'autorité de Dieu, est chassé et banni. C'est ce qui s'est passé en fait avec Lucifer. Voilà. Et lorsque Adam et Ève ne se sont pas soumis non plus à l'autorité de Dieu, hein, lorsqu'ils ont désobéi à ce qui leur était demandé, eh bien, bah, ils pouvaient pas rester dans la présence, dans la gloire de Dieu. Voilà. Donc, ils ont été chassés de sa présence, du jardin d'Éden. Donc c'est comme ça aussi que beaucoup d'hommes de Dieu, de grands prêtres, de grands pasteurs ou de grands évangélistes, enfin voilà, beaucoup de gens, en tout cas, beaucoup de serviteurs du Seigneur ont été disqualifiés. On a pas mal d'exemples aussi dans la Bible, mais on en a aussi beaucoup, et forcément encore plus quand on cherche un petit peu sur certains serviteurs connus. Et donc dans la Bible, en fait, un des exemples les plus marquants, évidemment, c'est l'exemple du roi Saül, hein, qui n'a pas obéyé aux recommandations qui lui avaient été faites par le prophète Samuel contre les Amalécites. Et puis il y a aussi le vieux sacrificateur, le vieux Élie, hein, pas le prophète Élie, mais bien le vieux Élie qui était serviteur dans le temple, hein, qui connaissait très bien les fautes de ses fils contre l'Éternel et contre le temple. Mais qui a couvert leurs fautes en fait, hein, sans les reprendre. Pourtant Dieu l'avait repris lui et lui avait signifié plusieurs fois que ses fils faisaient le mal et que Dieu ne le cautionnait pas. Mais il n'a pas écouté, il a couvert ses fils, il a préféré aimer plus ses fils que le Seigneur. Donc du coup, il a été disqualifié aussi. Et non seulement ça, mais la Bible dit bien qu'il a été disqualifié, lui, et sur plusieurs générations après lui. Parce que ceux qui étaient de la lignée des Lévites, hein, qui servaient dans le temple, bah, c'était de génération en génération. C'est le Seigneur qui avait décidé que c'était cette tribu-là qui servirait dans le temple. La Bible dit que les Lévites ne pouvaient pas faire la guerre parce que leur héritage, c'était justement de servir Dieu. Voilà. Donc, il a désobéi, il a été disqualifié. Et il a disqualifié par la même plusieurs générations après lui. Bon, il y a aussi la femme de Lot, hein, qui a désobéi aux instructions données par les anges avant de sortir de Sodome et Gomorre et qui a été transformée en statue de sel. Il y en a plein en fait. Voilà. Mais donc c'est vraiment indispensable en fait aux yeux de notre Père Céleste, hein, bah qu'on lui obéisse avec humilité, hein, et puis avec soumission, parce que tout simplement. On ne veut pas être à l'image de notre premier ennemi que Dieu avait créé aussi et qu'il a disqualifié depuis longtemps. Alors le Seigneur sait très bien que la moindre petite désobéissance envers lui va grandir en général, hein, pour finir en rébellion et en substituant sa volonté à la nôtre, en fait. Voilà. Donc, Dieu ne nous demande pas de le craindre par orgueil, hein, mais parce qu'il sait combien nous sommes influençables tant qu'on est dans ce monde, hein. Et si on ne respecte pas l'autorité divine qui nous a fait grâce d'être sauvés de la mort éternelle, et qui nous a fait grâce, justement, concernant le pardon de nos péchés, qui allons-nous bien pouvoir respecter et craindre si ce n'est pas le Tout-Puissant? Donc ça veut donc dire qu'on est notre propre chef si on ne l'écoute pas et que notre chair domine toujours. Mais regardons un peu ce que nous dit la Bible concernant ce domaine-là, Deutéronome 6, 24, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Si c'est notre chair qui nous domine, ben on va faire comme les Hébreux, en fait, on va toujours être idolâtre envers d'autres dieux, envers d'autres choses que le Seigneur. Et c'est pas lui qui pourra agir dans notre vie en fait. C'est pas lui qu'on va servir. On va penser qu'on sert Dieu, mais voilà, ça sera pas lui qui va prédominer dans notre vie. On peut pas. La Bible nous dit bien hein, qu'on ne peut pas servir le Seigneur et en même temps marcher par notre propre convoitise. C'est pas possible. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vienne habiter en nous. Et il faut que ce soit le Seigneur qui soit notre exemple et qu'il faut que notre vie soit à l'image de la vie de Christ. On dit souvent qu'il faut qu'on soit brisé en fait hein, pour avancer avec Dieu. Alors, non pas que le Seigneur veuille nous rabaisser absolument ou nous dévaloriser par ce brisement, mais on sait en fait qu'on a été formaté par dans les valeurs du monde qui ne sont pas celles du royaume des cieux en fait. Et à l'image du potier bah, qui veut réparer les fissures d'un vase, le Seigneur doit parfois retravailler complètement l'argile de ce vase. Et donc le vase doit être plus brisé en fait afin de pouvoir le remodeler solidement. Et d'en faire un nouveau vase de valeur, et non plus un vase vil qui va être rempli de mauvaises choses. Parce que si on garde les fissures d'avant, le Seigneur va essayer de nous remplir, mais forcément il y aura des fuites. Donc on ne pourra pas garder ce précieux liquide qui va nous remplir, cette foi, cette dévotion envers le Seigneur, cette crainte de Dieu, cette humilité, la paix que le Seigneur veut, dont le Seigneur veut nous remplir, toutes ces choses merveilleuses en fait, qui sont des nouvelles choses en nous quand on est de nouveau, eh bien, le Seigneur nous en remplit au fur et à mesure. Mais il nous en remplit parce qu'au fur et à mesure, en fait, ces fissures-là, elles sont réparées. Et parfois, ben voilà, quand le vase est trop plein de fissures, ben y a un plus gros travail à faire. Mais c'est toujours pour la gloire du Seigneur et pour nous rendre bien meilleurs, en fait. Voilà. Donc, il vaut mieux, en fait, se laisser façonner par le Seigneur. Tant qu'on est dans cette vie-là, plutôt que bah, de subir son jugement à la fin, soit à la fin des temps ou à la fin de notre vie, quoi. Parce que la Bible est claire, il vaut mieux pas subir la colère du Seigneur. Donc il nous faut agir avec respect et crainte de Dieu, une crainte respectueuse, hein, crainte révérencieuse. Le service pour le Seigneur, c'est d'abord la soumission à sa volonté. L'acceptation de ne plus contrôler nous-mêmes et puis de lui donner les rênes de notre destinée et les rênes aussi de ce qui a été prévu dans notre vie. Et puis l'obéissance sans condition en fait, sans négocier avec lui parce que si on a foi en ses jugements, ben on n'a pas de mal en fait à s'y soumettre. Et c'est pas très sain en fait de commencer à négocier avec le Seigneur. Ça veut dire que quelque part on n'est pas soumis totalement. Quand un enfant essaye de négocier avec ses parents certaines choses, c'est que voilà, il n'est pas d'accord avec la décision de ses parents. Donc il essaye aussi d'avoir de sortir un peu gagnant. De cette décision. Et donc voilà, mais dans un tribunal quand le juge donne son jugement, personne ne négocie avec lui en général, hein. Donc voilà, mais évidemment les mensonges du diable ont fini par convaincre une certaine partie des églises qui considèrent que c'est plutôt sain de négocier avec le Seigneur et que c'est un dialogue voilà, non. Personnellement, je pense pas parce que ben, c'est aussi porter à controverse la souveraineté et l'objectivité, la prescience du Seigneur, en fait. Ça veut dire que quelque part, on s'en remet pas totalement à lui parce que ben, on doute qu'il a bien tout choisi pour notre bien. Voilà. On doute qu'il a fait les bons choix. C'est quand même, voilà, c'est quand même très très orgueilleux, mais bon, voilà. Mais certains sont effectivement là-dedans. Donc la Bible dit que ceux qui ne voudront pas obéir seront sévèrement sanctionnés, et que donc il est plus sage de se soumettre pour suivre les instructions du Seigneur afin d'accomplir le service. Voilà, qu'il met devant nous. Donc, ben c'est pas une punition en fait, hein, ni une prison. C'est plutôt une joie de, un privilège de pouvoir le servir, parce que on sait que déjà toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, ben parce que on sait que voilà, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. On a plein de versets qui nous encouragent comme ça à nous confier en lui. Comme on le lisait tout à l'heure, heureux celui qui va se confier en lui, hein, heureux tous ceux qui vont se confier en lui, parce que la colère de Dieu ne sera pas prompte à s'enflammer contre eux. Donc voilà. Psaume 2, du verset 9 au verset 11, nous dit: tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier, pardon. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Voilà, donc dans la première partie, on voit bah, ce qui sera réservé à ceux qui n'obéiront pas. Et puis, il faut rechercher la sagesse du Seigneur, hein, pour être capable, en fait, de suivre ses instructions et de le servir dans l'obéissance. Donc, concernant l'obéissance, ben, c'est pas optionnel d'écouter et de suivre la volonté de Dieu, parce que, ben, évidemment, on comprend bien que c'est un problème qui va se poser par la suite quand quelqu'un agit avec désobéissance, hein. D'ailleurs, un chrétien, c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance de Christ, non? Enfin, à première vue, c'est ce que ce mot-là dit, décrit. Donc, voilà. On a vu tout à l'heure, hein, les différents exemples des personnages de la Bible, des prophètes ou autres, qui ont désobéi aux ordres de Dieu. Et bah, c'est par là que le péché a commencé, en fait, à les consumer. Donc, Dieu voit le cœur de chacun. Et ce qu'il y voit, bah, c'est parfois des réactions hautaines, orgueilleuses. La Bible dit qu'il a en horreur l'arrogance du cœur qui consiste à lui tenir tête, justement, hein, parce que c'est par ce comportement que le péché s'est manifesté en tout premier dans le cœur de Lucifer, puis dans le cœur d'Ève et d'Adam. Voilà, toute désobéissance, en fait, ne pourra pas rester impunie. Ésaïe 13, verset 11, nous dit: je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Quoi qu'il arrive, hein, faut pas oublier que voilà, le Seigneur aura toujours le dernier mot, comme on disait tout à l'heure. Donc, quand Dieu nous appelle à obéir, bah, ça se fait parfois un peu violemment. C'est un peu violent pour nous. Mais si on a vu avec Noé que c'est pas toujours le cas, parce que Noé il s'est tout à fait soumis. Jonas, lui, bah, ça a été un peu plus compliqué. Voilà. Mais le Seigneur est bon et patient et il fait grâce à qui revient avec un cœur repentant. Pour l'exemple de Paul, lui, bah, il était terrorisé en fait quand le Seigneur Jésus l'a arrêté net sur le chemin de Damas. La Bible nous dit dans Actes 9 au verset 6: tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lui, il était complètement pétrifié Il a carrément dit, ben, qu'est-ce que voilà, dis-moi ce qu'il faut que je fasse et je ferai. Alors, évidemment que le Seigneur, il attend pas de nous qu'on soit pétrifiés, hein, comme pouvait l'être le peuple hébreu d'ailleurs, parce que quand il a commencé à vouloir s'adresser à eux, après que Moïse est redescendu les tables de la loi, Dieu a voulu s'adresser à eux, mais ils ont eu tellement peur. En fait, ils étaient tellement éloignés, ils avaient tellement peu confiance. C'est l'image, en fait, ce peuple-là, toujours retombant dans l'idolâtrie des faux dieux, etc., doutant de la parole de Dieu. C'est exactement l'image des chrétiens qui sont pas nés de nouveau, en fait. Donc, ça peut pas fonctionner parce que au bout d'un moment, on peut pas servir. On ne peut pas suivre quelqu'un aveuglément en qui on n'a pas confiance. Voilà. Donc Paul, lui, il était vraiment effrayé et les mots sont pas légers en fait pour exprimer ce qu'il pouvait ressentir. C'est vraiment quand on détaille, on se dit waouh, il devait être vraiment, il devait trembler de peur quoi. Mais pourtant, il a écouté, il a obéi en fait sans poser de questions. Il n'a pas négocié, il a voilà. Et devant celui qui a reçu toute l'autorité, bah il a fléchi le genou et puis il a admis tout de suite que Jésus-Christ est Seigneur. Donc il faut qu'on se rappelle une chose essentielle, c'est que c'est pas Dieu en fait qui est à notre service, mais c'est nous qui sommes à son service. Nous, on a été créés en fait pour le servir, pour le louer, lui rendre gloire, et puis porter du crédit à son royaume, afin qu'on puisse justement hériter de toutes les choses qui nous a réservées. Alors encore une fois, ben, le Seigneur, il aura que faire en fait dans l'éternité de gens qui lui seront pas soumis en fait. Si on lui est pas soumis dans cette vie-là, bah comment on va pouvoir le louer, le servir éternellement, si déjà pendant 70, 80 ans ou toute la durée de notre vie ici, on n'a pas envie de le faire. La Bible nous dit en fait que on est en pèlerinage ici sur terre. Je sais pas qu'on regarde à notre service avec nos yeux physiques, mais plutôt avec les yeux que le Seigneur a ouverts pour nous, nos yeux spirituels. Une fois qu'on a été transformé par le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, on vit en esprit avec le Seigneur et donc nos yeux spirituels doivent regarder justement le Seigneur, doivent regarder ce que le Seigneur nous donne et à faire quoi. Voilà. Donc il sera bien plus facile pour nous d'avancer dans la foi et dans l'espérance des choses qu'on ne voit pas justement. Si on ne reste pas fixé sur ce qu'on a vu ou ce qu'on peut voir en fait pour accomplir le service qu'on doit accomplir. Dieu, il a en réserve pour chacun de ses enfants une multitude de bonnes choses en fait, dont d'ailleurs personne ne peut se faire une idée. Hein, c'est infiniment plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et dont parfois, en fait, on se prive nous-mêmes en n'agissant pas comme le Seigneur nous demande. Quand Dieu a appelé Moïse, il savait qui il choisissait. Moïse, il a bien essayé de dire qu'il avait du mal à parler, etc. Mais Dieu, évidemment, qu'il savait qui il choisissait. Il se trompe jamais, en fait. Il est omniscient. Il a la prescience de toute chose. On ne peut pas toujours comprendre ses pensées, et la Bible nous dit que c'est tant mieux parce qu'il y a des choses des mystères qui lui sont réservés à lui et qu'on n'a pas forcément besoin de connaître dans cette vie-là. Et puis peu importe en fait, mais ne soyons pas comme Gédéon qui a eu besoin de plusieurs preuves avant, voilà. C'était quand même un peuple qui avait une certaine connaissance des Écritures, et on voit en fait que même au fil des siècles, il y a eu très très peu de prophètes qui étaient choisis, qui avaient quand même totalement confiance en Dieu. Donc personne en fait n'est parfait hein, tant qu'on est ici sur terre. Notre cheminement dans cette vie-là consiste à notre perfectionnement, justement. Et même l'apôtre Pierre, en fait, qui était certain de sa foi envers le Seigneur, il aimait vraiment le Seigneur, mais il a pourtant renié Jésus 3 fois. Donc, voilà, laissons faire celui qui connaît toutes choses par avance et puis qui a formulé des projets de bonheur et non de malheur sur nos vies. Et puis donnons-lui les rênes, en fait, hein, de notre liberté de décider, marchons avec confiance, respect dans la foi, et puis recherchons, comme nous demande la parole du Seigneur, les choses d'en haut, parce que nous avons été rachetés pour ça. Voilà, je vais terminer avec un dernier verset, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 17 à 19. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà. Je prie que vous soyez bénis et que vous puissiez. Le Seigneur vous accorde de rentrer dans le service qui est prévu. Shalom.